un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Aucun métier, sans doute, ne nourrit autant de fantasmes et de bonnes histoires que celui d'espion. Tout y est. La noble et puissante ambition de servir son pays, voire de sauver le monde. La poursuite du bien suprême, le service d'une idéologie. Le secret et sa jouissance, l'ombre et sa fascination, le mensonge comme carte de visite à double ou triple fond. Il y a aussi la paranoïa comme outil de travail, le danger comme moteur de recherche. L'adrénaline, la pression. Et surtout, au commencement et à la fin, quelque part toujours tapis dans l'ombre, le sexe et l'argent. En France, la DGSE est l'administration qui gère tous ces fantasmes, ces James Bond, Prince Vert, Agent Double, Triple et autres légendes popularisées par la série d'Éric Rochon. Pour en savoir plus, je suis allée faire un tour sur le site de la dite direction. Or, c'est à peine une surprise, la réalité est beaucoup moins romanesque, trépidante, sexy. En ce moment, par exemple, la DGSE recrute pas des mecs baraqués ou des mataharis, mais des ingénieurs de base de données, des ingénieurs cœur de réseau, des ingénieurs en sécurité informatique, des crypto-mathématiciens, des analystes programmeurs, techniciens télécom, du signal, en système d'information, etc. Ceux-ci se verront d'abord proposer un CDD de 1 à 3 ans. Ils auront sûrement un badge de cantine, un comité d'entreprise, des avantages. Avec un peu de chance, ils seront CDIsés, deviendront des fonctionnaires de la défense avec des points d'avancement, des RTT et une hiérarchie très stricte qui vaut aussi bien pour les agents en mission que pour les techniciens des services. À l'extérieur, pourtant, ils feront toujours aussi fantasmer, mais devant leurs écrans, ils savent ce que c'est le métier. Tout de suite dans les pieds sur terre, ma vie d'espion, deux histoires entre ces deux extrêmes, entre le mythe et la réalité, par Justine Brabant.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Maxime. À l'origine, j'ai été formé dans le cours hôtelier de Besançon qui forme à l'hôtellerie de luxe. J'ai fait également des études de droit et ensuite j'ai voulu partir en Angleterre pour apprendre la langue, tout simplement. À Bristol, je me suis fait assez rapidement quelques amis, dont certains qui étaient avocats. Et un jour, une femme avocate qui était amie m'a proposé de postuler pour le plus gros cabinet de l'île de Jersey, qui est un paradis fiscal. Je lui ai donné mon CV, elle l'a transmis à son frère, qui l'a transmis à d'autres personnes, et c'est comme ça que je suis rentré un peu par une porte dérobée dans le monde de la finance. Le monde de Jersey a un tout petit milieu, déjà parce que c'est une île, donc c'est un endroit fermé, qui a beaucoup de retraités, et que le reste de la population travaille soit dans la finance, soit dans l'hôtellerie, énormément, et que les gens se connaissent quasiment tous ou de vue. Mon travail dans le cabinet d'avocat, c'était administrer des fonds. C'était énormément de droits, de compta. Et donc, c'est moi qui faisais un peu toute l'intendance, recevoir l'argent des investisseurs qui étaient dans le fonds, s'assurer que les investissements soient faits correctement, que les sociétés soient achetées, qu'elles soient revendues en temps et en heure, que l'argent soit ensuite redistribué aux investisseurs, et puis s'assurer que tout ça soit pseudo-légal, évidemment. C'était des open desk. Vous voyez une centaine de personnes devant vous, chacun devant son bureau. Quand j'ai commencé, à ma gauche, il y avait donc un des gros boss du cabinet d'avocats. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à écouter, à suivre ce qu'il faisait parce qu'il était juste à un bras de moi, quoi. Au départ, je comprenais très peu ce qui se passait. Donc, j'ai tout fait pour comprendre les mécanismes, comment ça marchait, les montages, l'administration, la gouvernance. Ce qui m'interpelle, c'était non seulement déjà en premier l'évasion fiscale, mais c'était l'ensemble de fraudes déguisées, dissimulées, que je comprenais à travers les montages. que ce soit des hauts fonctionnaires qui passent par les paradis fiscaux, des politiques, des multinationales, des milliardaires français ou étrangers. J'ai compris assez rapidement, parce que c'est pas non plus quelque chose de très compliqué à comprendre, qu'ils utilisent ce paravent pour asseoir leur pouvoir dans le monde de l'économie et faire toutes les choses illégales qui leur sont interdites de faire en France. Quelques mois après que j'ai débuté, alors même que je comprenais pas encore la totalité de ce que je voyais devant moi, je me suis dit qu'il fallait que je contacte les services secrets français, la DGSE. Donc la DGSE, ça veut dire la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Elle a pour but, entre autres, de protéger les intérêts de la France et des Français à l'extérieur. Ça me paraissait les services appropriés à contacter. J'ai cherché sur Internet comment faire pour les contacter. Il y avait une toute petite page web assez minable où il y avait une adresse postale. Donc j'ai envoyé une lettre et une personne qui a répondu à mon adresse à Jersey. Sur la lettre, il y a une en-tête. C'est l'armée, ministère de la Défense, mais il n'y a absolument aucune information relative à la DGSE. De mémoire, je crois que c'était un lieutenant qui disait « Nous avons bien reçu votre lettre. Est-ce que vous pouvez nous envoyer une lettre de motivation, votre CV ?» Donc c'était très très général. J'étais tellement enthousiaste à l'époque, je me suis dit non, je vais pas attendre encore un mois, deux mois ou trois mois, le temps qu'ils regardent mon CV ou si ou ça, il faut que je les contacte directement. Je me dis qu'il faut que j'appelle les états-majors de l'armée et je m'isole dans ma chambre avec la ligne fixe. Et je m'encourage plusieurs fois. Je me dis si la personne qui répond aux états-majors me prend pour un fou, c'est pas grave, ou pour un farfelu, tant pis. Et je tombe sur la personne au standard. Je lui dis est-ce que je pourrais parler à la DGSE ? Et là, il y a une petite seconde, et elle me dit oui, un instant, je vous mets en relation. Et ensuite, j'ai été mis en relation avec une jeune femme. Je transpirais, j'étais pas très à l'aise, et donc. À cette dame, j'ai dit « Écoutez, voilà, je suis basé à Jersey, je travaille dans la finance, j'ai des informations qui pourraient servir les intérêts français. » Pendant quelques minutes, la personne a été un peu interloquée que je passe par ce biais-là. J'ai cité des noms de clients avec des affaires et donc elle a compris qu'il y avait un gros enjeu. Finalement, elle a pris mes coordonnées. Une heure plus tard, il y a une personne, un homme qui m'a rappelé en me disant « On est sur une ligne sécure ». Quelqu'un qui était très déterminé, qui était très précis, qui m'a dit qu'il fallait que je crée une boîte email d'une certaine façon, qu'on allait commencer à échanger et qu'ils allaient voir qui j'étais, qu'ensuite peut-être on se rencontrerait. Pour moi, la DGSE, c'était le monde du secret, c'était le monde de l'aventure. C'était aussi le monde du danger, de servir aussi le bien commun, les autres. Donc c'était toutes les valeurs qui m'intéressaient. J'ai rencontré la personne qui deviendra mon premier officier traitant. C'était toute une aventure en fait pour le rencontrer à Paris, puisque les gens de la DGSE m'ont fait passer dans plusieurs endroits, peut-être pour vérifier que je venais bien seul. C'était un homme, je dirais 45-50 ans, avec les cheveux mi-longs. D'ailleurs, j'ai été assez surpris parce que pour moi, je pensais que quelqu'un de la DGSE aurait forcément les cheveux courts. Donc, il aurait pu très bien ressembler. En fait, pour moi, il ressemblait à un journaliste ou il aurait pu être un historien, un auteur d'ailleurs. Voilà, pas du tout le stéréotype que j'aurais pu imaginer. Je me rappelle, il m'a appelé Max. Très vite, alors que bon, je m'appelle Maxime. Et donc il y avait tout de suite une sorte de sympathie, de camaraderie qui a duré pendant toutes ces années avec les autres officiers traitants avec lesquels j'ai travaillé. Donc ça a commencé comme ça. Donc moi, j'ai été espion de 2007 à 2012 pour les services français. Au sein du cabinet d'avocats, je faisais des photocopies au départ, des dossiers. Il faut savoir que les archives étaient à disposition de tout le monde. Comme le bâtiment est très grand, vous vous baladez, vous prétextez d'aller voir des amis, de faire une petite pause café, et puis vous déroulez les armoires. C'est des grandes armoires en fer avec des grandes manivelles. Puis tout simplement, vous regardez les classeurs, vous savez lesquels des clients vous paraissent le plus intéressant et vous faites des photocopies tranquillement dans votre coin. Au départ, c'est comme ça que ça marche. Il y a aussi la partie de collecte dans les autres cabinets d'avocats ou banques. Et là, c'est des informations qui me sont données indirectement, sans le vouloir, ou directement par des amis que je fréquentais énormément dans des soirées, des sorties. vous prenez quelques bières, les gens se détendent, ce sont des trentenaires, quadragénaires, qui pensent que leur métier est fantastique. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de leur métier, ils parlent de leurs clients, c'est aussi une histoire d'ego. Il faut juste vous montrer un peu intéressé, mais sans être trop intéressé, en disant « Ah oui, tiens, quel type de client ?» Puis ça y est, c'est parti. Il faut juste être réceptif, être disponible pour la personne, et à ce moment-là, elle en dit bien plus que ce que vous pourriez lui demander. Moralement, c'est terrible à dire, mais ça allait très bien, en fait. J'arrivais à vivre avec. Je me disais que de toute façon, c'est des gens qui vivent au chaud, qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe en dehors de leur île ou du monde de la finance. Donc je me disais tout simplement, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire, ils défendent leur système, leurs idées, et moi aussi, de mon côté, de façon tranquille, sans animosité, juste en leur piquant leurs dossiers, leurs documents. La DGSE, ils m'ont dédommagé mes billets de train, des choses comme ça, quand je venais les voir. Mais moi, je considérais que j'avais mon travail, que j'étais rémunéré, donc je n'allais pas demander un deuxième salaire. J'étais dans les 3000 euros. Je trouvais que ce n'était pas normal de demander d'être rémunéré pour ce genre de travail. Il y a eu un long processus d'évolution dans la relation avec la DGSE. Les demandes sont devenues de plus en plus précises. Vous ne savez pas ce que deviennent vos informations, par contre, vous comprenez ce qu'ils cherchent tout simplement par les questions. Et quand vous voyez les questions qu'ils vous posent dans ce qu'ils appellent la liste de courses qui m'était donnée à chaque fois, ça pouvait être une demande sur tel milliardaire russe ou tel milliardaire américain, ça pouvait être une demande sur les protections mises en place financières au sein d'une banque étrangère. Vous voyez que les intérêts ne sont pas les salariés qui se font virer de grosses boîtes. Ce que je faisais servait pas les intérêts des Français au sens large du terme, mais donc pour le bien commun. De fait, vous comprenez que ça n'aide pas du tout vos concitoyens. Vous le voyez par la nature même des listes. J'ai été promu en octobre 2010. J'ai quitté Jersey pour aller travailler pour la banque américaine State Street au Luxembourg. Là-bas, j'ai continué le même travail que je faisais pour la DGSE, c'est-à-dire collecter les informations sur le lieu de mon travail et à côté. Il y a une désillusion qui s'organise au fil des mois, voire au cours des deux dernières années. Et cette désillusion s'est manifestée par une sorte de dégoût pour le monde de la finance. J'avais plus aucune envie de voir les gens avec qui je travaillais. J'avais vraiment un dégoût physique, je ne pouvais plus les voir. Alors j'avais pas du tout de dégoût pour les gens de la DGSE. J'avais juste une sorte de tristesse de voir qu'il y avait une forme de laisser-faire, voilà. Et je pense d'ailleurs que c'est quand je me suis rendu compte que je commençais vraiment à me disputer avec certaines personnes qui croient en ce que je dis la suprématie de la finance, que je me suis dit, bon, écoute, ça suffit, ça sert à rien de commencer à en vouloir au monde entier, il faut vraiment que tu arrêtes ce métier et arrêtes de servir ces idées qui ne te vont pas. La DGSE, je l'ai annoncé en prenant l'excuse que je prenais une année sabbatique, parce que je voulais pas être trop frontal avec eux. Mon officier traitant, quand il m'a revu après, m'a dit « Écoute, on comprend que tu veux pas prendre qu'une année sabbatique. » Et voilà, on s'est dit au revoir et c'était fini. J'ai déposé ma démission dans la banque dans laquelle je travaillais. Les gens ne voulaient pas que je quitte, ils voulaient que je laisse un préavis de 3 mois, ce que j'ai refusé, donc je suis parti un peu plus vite que prévu. Pour moi, ce sont des zombies, des gens complètement amorphes et inconscients. Et à un moment donné, vous n'avez pas envie de rendre des comptes à ces gens-là, c'est tout. Quand j'ai quitté ces deux milieux-là, il y a eu juste un grand sentiment de liberté que j'avais jamais connu. Maintenant, je travaille avec mon frère, on a une plateforme de lanceurs d'alerte. Je suis de plus en plus en relation avec des syndicats, des groupements de salariés, pour les aider à lutter contre des liquidations frauduleuses, des actionnaires qui ont de mauvaises intentions. Il y a énormément de fraudes pour lesquelles maintenant les groupements de salariés me demandent mon aide. Si on résume à l'extrême, j'aide les salariés à leur donner les documents qui montrent que les patrons, le management ou les actionnaires leur mentent et trichent. J'habite dans la petite maison de campagne toute simple dans les Vosges que j'avais achetée, qui est toute petite. C'est une maison de petits vieux, si vous voulez. Voilà, je suis très heureux. J'ai appris à jardiner. C'est avéré que j'adore ça. Courgettes, carottes, pommes de terre, j'ai appris à faire du compost, à faire des semis. C'était une façon, je dirais, de m'écarter du brouhaha général, un peu de la folie humaine, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Olivier, je suis militaire d'origine et j'ai passé 13 ans dans l'armée avant de rejoindre la DGSE. J'étais jeune capitaine à l'époque quand j'ai fait le choix de rejoindre ce service. Mon entrée à la DGSE a été facilitée par quelqu'un que j'ai rencontré en exercice. C'était en République tchèque sur un terrain militaire où on était déployé. C'était un officier que j'avais connu plus tôt et je racontais un petit peu mon désarroi, mes questionnements en me disant « Tiens, je commence à m'ennuyer, il y a beaucoup d'administratifs, la carrière devient un peu pénible. » Je m'occupais de la formation, de l'instruction, des escadrons, je rédigeais des rapports, des lettres à la division, tout un travail d'état-major un petit peu rébarbatif. Alors il m'a dit, tiens, je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui a rejoint la DGSE il y a quelques années déjà, qui a l'air de s'éclater, et il faut que tu le rencontres. Donc c'était un rendez-vous dans un restaurant du 18e arrondissement. Je vois ce chef, et là, lui, on était en pleine crise d'Afghanistan, et il avait avec lui une dizaine de téléphones portables qui sonnaient en permanence. Il dit, tiens, là c'est l'Irak, tiens, là c'est l'Afghanistan, attends, là il faut que je te coupe, je vais parler. Et là je me dis, mais c'est génial ce truc, ça palpite, on est au cœur d'actualité. Et je dis, mais c'est là que je veux aller, bien sûr. Moi j'ai fait une entrée un petit peu particulière parce que je suis rentré au départ dans un petit service qui s'occupe de clandestinité. Les agents de ce petit service ont une couverture. Alors ce sont parfois des faux humanitaires, des faux chefs d'entreprise, des faux journalistes. J'ai commencé comme simple clandestin, donc j'ai eu des missions clandestines sur une autre identité. J'ai dû avoir deux identités différentes. J'ai été envoyé plusieurs fois en Asie centrale et en Afrique subsaharienne, dirons-nous, mais je ne vais pas raconter quelle était ma couverture, parce que là c'est un peu sensible. Les dernières journées, avant de partir pour sa première mission, les choses s'accélèrent énormément parce qu'on a trois vies en fait à faire avancer et tout s'accélère trois fois. On a sa vie familiale où il faut préparer les choses parce qu'on va disparaître de la circulation avec sa femme qui va se retrouver avec les enfants toute seule pendant plusieurs mois. Il faut quand même essayer de régler les choses financièrement, les médecins, etc. Et ensuite, on a sa vie d'officier traitant, où il faut préparer, finaliser sa mission, envoyer des derniers petits rapports, voir sa hiérarchie. Et puis, on a sa vie de couverture, donc le personnage qui, lui, va prendre son passeport et traverser les frontières pour faire sa mission. Tout s'accélère, il faut penser en triple. Si bien que je me souviens que la dernière fois, je suis rentré après les heures de service assez tard, donc le garde me dit « Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous ?» Et là, je me suis posé la question, j'ai dit, mais moi, je dis qui, moi, je suis qui? Je ne savais plus des trois identités, laquelle. Donc, ça m'a semblé un temps très long. Finalement, j'ai dû répondre en deux secondes, mais je me suis dit, tiens, voilà, je suis un tel. Au bout d'un moment, tout s'accélère, on ne sait plus trop qui on est. On prépare d'abord ses valises chez soi, mais ensuite, on les ramène au service parce qu'ils sont contrôlés. Et c'est important quand on est clandestin de contrôler toutes ces valises parce que tout d'un coup, si jamais vous avez une petite étiquette avec votre nom sur votre chemise, par exemple, ou si vous avez un bracelet, ou si vous avez un ticket de métro, ou une carte d'abonnement au théâtre avec votre faux nom, c'est une catastrophe. En général, les clandestins ramènent leurs valises au service pour qu'elles puissent être complètement contrôlées. Quand je commence mon infiltration dans le pays en question, c'est un pays d'Afrique subsaharienne. J'arrive sur la capitale du pays concerné, et puis ensuite je remonte vers le nord, dans des zones beaucoup plus difficiles. Donc je prends un grand bus, puis un petit bus, un minibus. Et mes valises étaient stockées en haut du camion. Tout ce que j'avais pour pouvoir travailler, je ne pouvais pas tout garder sur moi, c'était trop gros. Et quand on est ressorti, quand je suis arrivé pratiquement à ma destination finale, on ne trouvait plus ma valise. Il y avait toute une foule autour du bus. Il a fallu tourner autour en engueulant le chauffeur, en disant « qu'est-ce qui se passe ?». Donc évidemment, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'excitation, tout le monde sortait ses valises, partait, des voitures arrivaient, l'aide du chauffeur qui était monté sur le bus, et le toit est complètement vide, et ça y est, il a fini, moi j'ai toujours pas ma valise. Donc dans ma valise, il y avait des moyens de communication, essentiellement, pour pouvoir communiquer avec ma centrale. Si on n'a pas de moyens de communication, on ne sert plus à rien, parce que le renseignement, il se périme très vite. Donc il faut pouvoir transmettre ce qu'on a observé assez rapidement. Donc là, je ne pouvais plus travailler, hein, c'était fini. La mission était ratée, il fallait que je rentre. Ça aurait été la honte complète, donc il a fallu pousser des épaules les gens. Il y en avait de moins en moins, d'ailleurs, et puis pof, pour retrouver tout d'un coup, caché derrière une autre valise, la mienne. Je ne sais pas si c'était passé sous une bâche, mais j'ai retrouvé ma valise, et ouf, j'ai donc pu continuer ma mission. Mais ça, c'était un souvenir assez stressant, je l'avoue. Après ces années passées au début dans cette cellule spécialisée, j'ai été envoyé à l'étranger, où j'ai été chef de poste, et notamment un pays dans lequel on avait des relations difficiles avec les services locaux. Le grand jeu, c'était de se cacher et de rencontrer des gens qui ne voulaient pas qu'on rencontre. Et c'était un jeu assez violent, parce qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de nous laisser faire. J'ai eu mon adjoint qui a été arrêté, molesté, interrogé, assez durement, et puis expulsé. On avait depuis plusieurs mois détecté plusieurs signaux qui nous montraient que les services locaux nous tournaient autour plus qu'avant. Et moi, quand j'ai reçu la nouvelle, j'avais quitté la capitale pour une mission dans une ville plus au sud, et j'avais laissé mon téléphone portable sur... c'était vibreur, et je l'avais laissé dans le dossier arrière de ma voiture. Et donc, ça n'a pas été assez fort, j'avais rien entendu. Et à un moment, je reprends contact avec mon téléphone pour voir si j'avais pas de message. J'avais 20 messages en absence, notamment de l'ambassadeur. Je l'appelle, je dis « Bon, écoutez, monsieur l'ambassadeur, j'ai encore plein de choses à faire là où je suis. J'ai beaucoup de... Non, mais là, il faut que vous rentriez tout de suite, là, Olivier. Là, il faut... là c'est urgent. » Bon, d'accord. Là, j'ai tout de suite compris. Il m'a pas expliqué, mais je lui dis « Ça y est. » Je savais de quoi il s'agissait. Je savais que mon adjoint avait un contact... avec une source qui était sensible, je me suis dit « ok, c'était un piège ». Quand on est dans un contexte comme ça, aussi belliqueux et aussi tendu, il n'y a pas beaucoup de soupapes. Donc on est sous pression en permanence. Donc à terme, c'est des années difficiles, hein. C'est des années qui comptent double, où on se fait des cheveux gris, où on les perd. On est toujours sur nos gardes. Alors les moments de respiration, c'est les moments de vacances. C'est-à-dire que tiens, on va prendre l'avion et on va changer de pays. On va prendre un pays normal, là, où on est touriste, gentil touriste, apprécié parce qu'il va dépenser de l'argent. C'est le relâchement, donc on se retrouve à la plage et je ne suis plus sous pression, je ne suis plus observé, je ne suis plus contrôlé. Je peux profiter, les doigts de pied en éventail, devant la mer, et toute la tension retombe. Le problème des amis en mission, c'est parfois la grande souffrance du clandestin, parce qu'on est des gens... qui développons de l'empathie. On travaille bien parce qu'on aime les gens, souvent. Et c'est assez atroce parce qu'on leur ment. Mais on leur ment que sur une partie des choses. On leur ment sur notre identité, bon, ce qui est quand même important. Mais nos sentiments, on essaye de ne pas les travestir. Enfin, ils sont réels. Et quand on revient en France et qu'il faut démonter la mission, eh bien, il faut couper brutalement les ponts. On coupe, on cloisonne la vie professionnelle et la vie fictive et la vie familiale. Alors pour pas trop couper brutalement les ponts, on laisse son faux téléphone, enfin son faux nom, on le laisse encore actif quelques mois pour pouvoir répondre. Et je me souviens d'avoir eu un appel téléphonique d'un ancien ami avec qui j'avais partagé plein de choses dans des endroits difficiles, et qui m'a dit « Bah alors, comment ça va, j'aimerais bien te revoir ». Et ça c'était déchirant parce que c'était... Voilà, j'ai pas répondu, mais j'ai entendu le message. On fait attention quand on écoute ses messages, son téléphone... toujours de ne pas l'allumer dans une zone sensible. C'est-à-dire que vous savez qu'à chaque fois que vous allumez votre téléphone, il va s'accrocher à une BTS, une borne relais. Et si votre BTS s'accroche, elle est près du boulevard Mortier, un observateur peut se dire « Tiens, voilà, ben, ce type-là, il n'était pas ce qu'il présentait être parce qu'il est louche. Sa BTS active, elle est près des services secrets français. » Quand on écoute ces messages, on ne le fait pas chez soi. Donc on va s'éloigner un petit peu dans Paris pour allumer notre téléphone et écouter nos messages. Donc voilà, ce message-là, je ne sais plus tellement où j'étais, mais peut-être dans la rue. Je l'ai reçu à peu près 3 semaines après être rentré de mission. Mais en tout cas, je me souviens de l'enregistrement audio. Je l'ai réécouté 2-3 fois et c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et si j'étais pas un autre, j'aurais eu plaisir à garder cette amitié à vie. Je regrette. J'aurais vraiment aimé répondre. Mais il faut couper.
Here is a story about a boy and a girl. She woke up one morning, felt alone in this world. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. Cried in the night, he brought her flowers in the daytime. She tried to forget the past and all her past crimes. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. How could you shoot a good man down?
C'était Ma vie d'espion, un reportage de Justine Brabant, réalisé par Anne-Laure Chanel avec un coup de main de Thomas Jost et diffusé pour la première fois le 30 octobre 2019. Merci à Maxime Renaï, devenu lanceur d'alerte à sa façon et qui est aussi l'auteur de Là où est l'argent aux éditions des Arènes. Merci à Olivier Ma qui a également écrit Profession Esprit chez Webeck. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Flavie Champion, notre stagiaire.
Could you shoot a good man down? Leave without mourning. Broken hearted on the ground, like the others before him. The burden heavy as a rock. Ain't nobody gonna stop her. Go ahead and walk alone and regret it some elsewhere.
France Culture et Arte présentent la deuxième édition de Et maintenant, le Festival international des idées de demain. Avenir, environnement, incertitude, engagement, émotion. Et maintenant, on se rencontre et on en discute. Direct, débat et ateliers participatifs, docu-conf et plus encore. Les 21 et 22 octobre, à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris et sur un site dédié. Infos et inscriptions et maintenant-lefestival.fr.